R22.
Tout le monde.
Antenne. Point bascule.
Floyd Dogg, artiste, et Nicolas Géraudoux, écrivain.
Sans l'eau, les villes ne poussent pas. En fait, c'est l'eau qui va permettre à la réflexion tranquille. En anglais, il dit « quiet reflection ». C'est l'eau qui le permet. Donc, on a la vie. Maintenant, on peut penser, on peut analyser les choses. Alors que si on passe son temps à aller chercher l'eau, on n'a pas le temps d'analyser les choses. Et dans mon travail littéraire, moi j'appelle ça « l'eau est amniotique ». Mais toute chose vivante est amniotique. L'homme est amniotique dans l'air. L'espace est amniotique avec le noir sidéral, immense, qui n'a pas de fin. On connaît bien, enfin les savants le disent, ils disent que toutes les galaxies s'enfuient. Mais le noir ne s'enfuit pas. Le noir reste là. Mais ce qui est vrai, là, c'est que le noir de l'espace n'existe pas. Qu'est-ce que tu vois le soir quand tu regardes le ciel? La gélure de l'invisible. Tellement l'espace est immense qu'on le voit noir. Mais maintenant, prends un vaisseau spatial et pars à la recherche du début de ce noir. Tu ne trouveras jamais, parce que tout est vide. C'est l'immensité du vide, de l'invisible, qui devient noir. Un exemple. Quand tu rentres dans la neige, tu laisses ta main dans le froid, dans le blanc. Ta main devient noire. On appelle ça la gélure. Là, c'est pareil. Là-haut, dans l'espace, c'est le froid qui gèle l'invisible. L'homme blanc n'existait pas. L'homme noir n'existait pas. Ça, c'est l'homme dit blanc qui a son préjugé sur d'autres personnes qu'il nomme noir. Mais ils ont oublié beaucoup de choses dans cet univers. Il émet des préjugés, mais quand l'homme blanc parle comme ça, il ne fait que rester un homme blanc. Les noirs. Si on remonte plus loin, en Égypte antique, on les appelle les brûlés, les charbons. Donc il y a un rapport avec le bois qu'on brûle et qui devient noir. Un homme charbon, un homme brûlé. Si on remonte plus loin encore dans le temps, à des milliards d'années, cette chose qui va devenir homme existe déjà. Et cette chose s'appelle la mélanine. L'homme n'est pas né que la mélanine existe. La mélanine connaît le soleil. La mélanine est née avant ce soleil. Il connaît les méfaits du soleil. Le blanc, c'est le défaut de la transparence. Ces hommes, quand ils se sont éloignés du soleil, la mélanine n'est pas ressortie. Aller dans le soleil, là, fais 2 jours à Saint-Gilles, tu deviendras brûlé. La mélanine va ressortir. En tous les hommes, il y a la mélanine. Partout où j'irai dans l'espace, la mélanine sortira dès qu'il verra un soleil. Ça veut dire que je suis en lien avec l'élément soleil, donc avec l'univers. Et quand l'homme est arrivé, dès la naissance de ce premier homme, là dans notre côte à nous, là, l'Afrique australe, la mélanine a ressorti dehors. Parce que cet homme-là, cette personne, était transparente, pas blanc. Tout homme né sur cette terre, dans cette galaxie, est transparent. Et quand cet homme est sorti de terre, est sorti quelque part, il a été confronté avec le soleil. Et c'est là que la mélanine comprend que le soleil est en train de tuer cette personne. La mélanine sort du corps et apparaît sur la peau. C'est pour protéger cet homme ou cette femme contre les méfaits du soleil. Et plus tard, quand il y aura beaucoup d'hommes, les autres hommes vont appeler ces personnes les dzangs. Les dzangs, ça veut dire les brûlés. Un exemple, les Chinois, à certaines époques très lointaines, ils vont faire le commerce avec les dzangs, avec les brûlés, pas avec les noirs, pas avec les nègres, pas avec les bougnoules. L'insulte n'existe pas. Il y a un rapport d'homme à homme. D'abord, Zanz, t'as entendu le mot, Zanz. Et en français, dans Europe, on parle aussi des Zanz, des anges. Mais au pluriel, c'est les anges. Il y a beaucoup de choses qui sont nées dans l'océan Indien et qui vont apparaître en Europe bien plus tard, que ces hommes dits blancs ont totalement oublié. Voilà la confrontation que moi je mène dans un travail littéraire, confronté à des hommes déguisés en hommes, à des femmes déguisées en femmes. Si tu n'aimes pas le noir, c'est que tu es un homme déguisé en homme. Dès que tu as compris ta mélanine, tu comprends beaucoup de choses. Certains appellent ça le troisième œil. Peut-être que ça, tu le sais, l'homme est né après l'animal. L'homme est né après le chien. L'homme est né après l'arbre. C'est la mélanine qui a voyagé dans les étoiles et qui voit tout. Donc, il faut se souvenir. Et ce souvenir, il faut sortir de l'eau de son corps. Nous sommes nés dans l'eau, nous, amniotiques. C'est impossible. Normalement, on doit se noyer. Et cette eau ne noie personne. Donc, quand moi, là, je parle encore avec la parole amniotique. C'est-à-dire, je sais ce que je dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la mélanine. La mélanine traverse l'eau de l'univers, l'eau du corps de la femme, et maintenant, je parle d'une façon amniotique.
Les géographes définissent, en gros, dans les biosphères, ou ce qu'ils appellent les biosphères, les éléments biotiques, c'est-à-dire le vivant, et puis les éléments abiotiques, c'est-à-dire les éléments non vivants. Pour eux, l'abiotique, c'est par exemple tout simplement le minéral, c'est l'eau. L'eau pure, hein, évidemment, puisque l'eau charrie du vivant à l'intérieur d'elle, mais elle est simplement un support au vivant, et l'espace. Et ce qui est frappant, c'est que justement, cet élément abiotique, c'est aussi l'élément qui permet la vie. Il y a donc là déjà un effet d'interface, si tu veux, entre l'eau qui n'est pas vivante elle-même, quand bien même elle sera en mouvement, etc., etc., elle ne contient pas de vivant, si tu veux. Elle ne se métamorphose pas, elle ne bouge pas, elle est elle-même la métamorphose. Roger Lerman, en fait, c'est l'homme du basculement. Il y a au départ déjà une logique chez lui qui est perceptible dans le titre de son livre majeur, Les révélations du grand océan. Il y a un fantasme autour de cette notion du grand océan, qui est en fait la réunion de l'océan Indien et l'océan Pacifique, dont il estime et dont il pense, lui, à travers d'ailleurs des images vraiment fulgurantes, qu'en réalité ce grand océan est un grand continent englouti. Autrement dit, on a à nouveau ce basculement au-dessus de la surface de l'eau ou au-dessous de la surface de l'eau d'un espace continental qui aurait été l'origine de la vie, l'origine du vivant, l'origine aussi d'une première humanité qui nécessairement disparaît sous cette surface après être née de celle-ci, si tu veux. Et il y a des pages absolument remarquables dans les révélations du grand océan, d'une rêverie de la carte du monde où à travers l'espace océanique, je crois qu'on l'a tous fait enfant ça, tu regardes le fond des océans sur une carte, déjà c'est absolument magique parce que tu vois le fond, donc c'est très troublant. Et lui te décrit dans ces pages-là de quelle manière il voit émerger cette croûte océanique, il la voit émerger au-dessus de la surface de l'eau. Autrement dit, il a réussi à inverser, à faire basculer en quelque sorte ce qui est sous la surface, à le faire passer au-dessus de la surface. Et effectivement, physiquement parlant, je dirais, c'est une expérience fondatrice. On renverse, on retourne en quelque sorte les rôles, on fait de l'eau l'élément qui qui se trouve au-dessus et des masses continentales, les éléments qui sont en dessous. Et lui estime, il n'a pas tout à fait tort en l'occurrence, puisqu'on le sait, les masses continentales sont sans cesse recouvertes d'eau ou au contraire émergent. Manifestement, il rejoue ce jeu-là autour d'un espace imaginaire, ou peut-être d'ailleurs bien réel, qui serait pour lui le grand océan. En l'occurrence, pourquoi le grand océan ? Très simplement parce que il s'est rendu compte de quelque chose qui, pour le coup, est assez véridique. Il y a une espèce de culture partagée, depuis des temps quand même suffisamment anciens pour qu'un savant comme Philippe Bojard nous dise qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, on avait une espèce d'arc de civilisation qui allait de l'île de Pâques jusqu'à Madagascar, ce qui est proprement stupéfiant dans la mesure où il n'y a que de l'eau, ou quasiment que de l'eau. Quelques petites mouchetures d'îles comme ça, de gauche et de droite, mais en réalité un immense espace océanique qui est précisément le contraire de la vie. Ou ce qui pourrait s'opposer à la vie. Donc il y a vraiment un truc stupéfiant et surprenant là-dedans, où Jules est capable de retourner l'eau, en quelque sorte elle-même, et de faire émerger ce qui est tout sauf l'eau. Autrement dit, d'arriver à lire à l'intérieur de quelque chose qui ne laisse aucune trace, justement la trace de l'invisible, ou la trace des invisibles. C'est en grande partie ça qu'il appelle la Lémurie, effectivement, c'est-à-dire, en réalité, la Lémurie, c'est le grand océan, c'est-à-dire, effectivement, ce grand océan, avant qu'une collision planétaire n'ait fait submerger, si tu veux, ce continent-là. La Lémurie, en fait, c'est un discours scientifique, d'abord et avant tout, qui vient du milieu du 19e siècle, par des darwiniens, autrement dit, par des gens très très modernistes, qui se sont penchés sur la question de savoir d'où pouvait venir le chaînon manquant. Comment expliquer, par exemple, qu'il y ait des lémuridés à la fois à Madagascar et également en Asie du Sud-Est, et qui n'ont pas trouvé d'autre explication que de se dire, tiens, il y avait probablement au départ un continent, et ce continent qui a disparu explique la dispersion de ces espèces-là. À partir des années 60, on a dit, mais non, il n'y avait pas de continent disparu. Alors, certes, Hermann a raison sur la tectonique des plaques. Il se trouve qu'à cette époque-là, personne ne croyait dans la tectonique des plaques et que Jules faisait partie des précurseurs, en quelque sorte, de ce discours-là qui vient d'un savant allemand, Wegener. C'est seulement dans les années 60 qu'on a commencé à dire, ah oui, effectivement, il y a bel et bien eu une tectonique des plaques. Comme si la science constamment nous montrait dans la réalité pratique des choses qu'elle se contredisait en permanence et qu'elle était à la recherche de la vérité, mais certainement pas qu'elle était porteuse d'une vérité absolue. En revanche, l'hypothèse Lémurie a été abandonnée dans cette même période-là, c'est-à-dire qu'on a dit, non sans raison d'ailleurs, la Réunion, Maurice, ne sont que les résultats de points chauds dans le fond de l'océan, en réalité, qui ont fini par remonter. Bah, sauf que, il y a environ 4 à 5 ans, une équipe de chercheurs sud-africains a retrouvé sur les plages mauriciennes et dans les roches mauriciennes un fragment de feldspath. Je ne vais pas entrer dans des détails de géologie, mais le feldspath, en fait, c'est une roche qui n'existe que sur des plaques continentales. Autrement dit, ce n'est pas une roche métamorphique, comme ça devrait être le cas sur du volcan où on ne devrait trouver que du basalte, mais ça ne peut que supposer l'existence donc d'une plaque continentale sous-jacente. Et voilà où on en est à l'heure actuelle du débat théorique autour de ça. Il y aurait bel et bien eu effectivement un micro-continent dont on ne connaît pas encore en réalité la dimension réelle, qui aurait été tout simplement totalement recouvert par des éruptions volcaniques, mais qui en fait préexistait à ces éruptions volcaniques. Ça correspond d'ailleurs à ce qu'on dit aujourd'hui de la géologie de la Réunion. Il n'y a pas eu 3 volcans, il y en a eu un au milieu. Et ce volcan du milieu, qu'on a appelé le volcan des Alizés, entre le massif du Piton des Neiges et le massif de la Fournaise, il a été totalement recouvert par les éruptions successives. On ne le voit plus, et pourtant il l'a été. Alors Madagascar, La Réunion et Maurice seraient pour Jules en fait les derniers fragments, les plus hauts sommets de ce continent disparu. Jules te dit d'ailleurs que La Réunion était couverte de glaciers autrefois, c'est-à-dire qu'en fait ces montagnes culminaient à plus de 8000 mètres d'altitude. Bref, ce sont là, pour lui, les 3 derniers vestiges, les plus hauts sommets de ce continent qui n'existe plus, ou en tout cas qui ne se voit plus en quelque sorte. Pour dire la mort, on dit mat. À Madagascar, on dit mati. Dans la plupart des langues arabes, on dit mat, tout court. Échec et mat, ça veut dire le roi est mort, dans la langue arabe. Comment expliquer qu'aux deux extrémités du monde, Tahiti d'un côté, Madagascar de l'autre, on utilise le même mot ? Quelle explication scientifique plausible peut être donnée par rapport à ça ? Voilà ce qui a fasciné littéralement Jules Hermann.
R22 Tout le monde, antenne, point bascule.